L'esprit critique. Mediapart.
L'esprit critique de ce jour prolonge une question qui travaille le cinéma, mais également le théâtre, à savoir comment sortir du côté des tournages et des plateaux, mais aussi de la critique qui est faite des films et des pièces, de logique et de regard dominés par les hommes. Quelle forme pourrait prendre concrètement l'au-delà de la politique des auteurs, terme forgé dans le monde du cinéma mais qui n'est pas nécessairement étranger à celui du théâtre, même si le répertoire n'est pas le même? Que fait-on une fois dénoncé la nocivité d'un male gaze à la fois omniprésent et attrape-tout? Est-ce qu'une politique des actrices, autrices pourraient faire contrepoids? Et peut-on ainsi retraverser l'histoire du cinéma à travers une cinéphilie alternative qui tienne ensemble considérations esthétiques et conditions de production des œuvres? Autant de questions ouvertes dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois sensibles et en cours d'élaboration, dont on discute avec Camille Nevers, critique de cinéma à Libération et cinéaste, qui élabore les contours d'une politique des actrices-autrices depuis quelque temps déjà, Occitane Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles, et Isée Sorel, à la fois réalisatrice et critique, qui écrit notamment pour la revue d'idées en ligne AOC. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors j'aimerais partir exceptionnellement non pas d'une question mais d'une situation sur laquelle je ne suis sans doute pas le seul à m'interroger. On a l'impression en effet d'être dans un moment essentiel de remise en cause du pouvoir des réalisateurs et de ce que ce pouvoir a pu permettre de domination sexiste, d'emprise masculine, voire d'attitude relevant des tribunaux. Et dans le même temps, si on regarde le cinéma français, en tout cas celui qui rafle des prix en ce moment, il est presque entièrement composé de réalisatrices, Justine Triet, Julia Ducournau, Mati Diop. Comment est-ce que vous comprenez cette équation? Est-ce que c'est un paradoxe? Est-ce que c'est un masque sur une réalité qui demeure dominée par les auteurs-réalisateurs? Est-ce qu'il y aurait une révolution qui se serait produite en silence, mais qui aujourd'hui serait entrée dans une nouvelle phase d'expression, à la fois par une meilleure attention médiatique, notamment à des propos comme ceux de Judith Godrèche, mais aussi de certaines invectives parfois fratricides sur les réseaux sociaux, Isée Sorel?
Alors, je ne sais pas s'il y a un système de vase communicant entre ces deux aspects. Pour moi, ça me paraît lié, mais pas forcément dans un rapport de causalité. Mais c'est vrai que je pense que c'est finalement peut-être la meilleure réponse qu'il peut y avoir, le contre-champ dont on peut se réjouir à des hommes qui tombent et des femmes qui montent de l'autre côté. Après, on n'a pas attendu, ces salves de prix pour avoir des réalisatrices extrêmement talentueuses. C'est juste que c'est elles qui portent haut, là encore, le cinéma français en ce moment. Ensuite, sur la question, et que les femmes réalisatrices ne sont pas exemptes non plus de violence, comme on a pu le voir dans les deux derniers festivals de Cannes, que ce soit dans le film Les Amandiers. Là, c'était quoi
le film de Catherine Corsini.
Le film de Catherine Corsini également. Donc, je pense qu'il faut toujours être, tant que spectateur, spectatrice, critique, journaliste, citoyen de façon générale, être des semeurs de troubles et de doutes. Et ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est complètement comme ça, une sacralisation en fait à revers, de comme quoi on ne pourrait pas du tout commettre d'impair.
Camille Nevers, sur cette situation particulière, est-ce qu'il y a quelque chose à en dire? Est-ce que c'est juste un effet de vision? Qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà, je pense que MeToo passe par là depuis maintenant 8 ans, c'est ça, enfin aux États-Unis, et depuis Adèle Haenel 2019 en France. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de rebondissements au cours des années avec les Césars qui ont reformaté tout leur magistère. Enfin voilà, Polanski ne pourra plus, je pense, avoir de prix avec les nouveaux membres. Après, MeToo, c'est, je pense, ce qui est arrivé de mieux au cinéma depuis peut-être la nouvelle vague. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être dans un moment historique et j'en suis hyper ravie. Je trouve que ça devrait être hyper excitant, bouillonnant et qu'on devrait ne pas cesser de relancer ce que Adèle Haenel, pas mal. Ce sont toutes des comédiennes, hein, pratiquement, à part dans l'affaire Weinstein où c'était des assistantes de production, etc., et des petites mains. Là, c'est quand même un mouvement d'actrices. C'est pour ça que ça m'interpelle beaucoup. Et je pense que quand Judith Godrèche arrive fin 2023 avec sa série donc avec une fiction où elle raconte ce qui lui est arrivé dans les années 90. Elle en ajoute une nouvelle couche, c'est-à-dire que Adèle Haenel pointait un cinéma d'auteur, mais finalement très peu connu, puisque Christophe Ruggia n'était vraiment pas... Alors que là, elle remet en cause tout un système, et c'est ça qui me paraît très fort chez elle, c'est qu'elle désigne dans l'ombre des auteurs prédateurs tout un système et tout un milieu du cinéma, donc de la critique, des festivals, de la pratique du cinéma et des conditions matérielles de le faire. Et c'est pour ça que je trouve que c'est passionnant, et que en tant que critique, en tant que cinéaste, en tant que femme de cinéma et éventuellement participant au mouvement MeToo, je trouve qu'il y a, oui, plein de choses qui se passent, et plus en termes de fiction, si on pourrait débattre longtemps de ce que j'appelle la fiction, plutôt que de réalisatrice genrée. Enfin, la limite, effectivement, comme disait Isée, il y a des réalisatrices autoritaires. et voilà. Et simplement, quand Gilles Godrèche interpelle nous, les spectateurs, en disant « Retournez voir les films de Benoît Jacquot et de Jacques Doyon », c'est pas pour faire des mea culpa, c'est pour dire que la fiction... montre déjà la vérité qu'elle nous raconte aujourd'hui et qu'il faut retourner voir pour voir par ses yeux à elle d'actrice, et c'est pour ça que je parle d'actrice-autrice, c'est une œuvre qui est aussi la sienne et qui nous montre comme une preuve de ce qu'elle a subi, puisque même si dans la fiction de Jacques Doyon, la chose est entérinée, enfin, il la viole pratiquement, chez Jacquot, c'est plus compliqué. Ça se passait dans un rapport hors plateau, plus secret, etc. Et donc, enfin, c'est très intéressant du point de vue de la critique et du journalisme d'investigation, de revoir les choses à cette aune de MeToo, qui me paraît passionnante.
Occitane, sur cette même question, et bah déjà sur cette question assez fondamentale, de savoir si la fiction désigne tout le temps, ou parfois pas, ce qui se passe pendant le tournage.
C'est vrai que c'est quelque chose qui, enfin, c'est une idée qui a été pas mal reprise, renouvelée là récemment. Du coup, l'idée que tout film est documentaire de son tournage et que voilà, il y aurait une vérité qui transparaîtrait dans la fiction. Pourquoi pas? Mais en même temps, j'ai l'impression que ça me suffit pas totalement, dans le sens où moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi des conditions un peu plus précises qui ont été soulevées par les actrices elles-mêmes là récemment. Enfin, je pense à Anna Mouglalis qui a réaffirmé sur le plateau de Mediapart que aller sur un plateau, c'était aller aussi au travail, et que du coup, l'intérêt de ce dialogue-là, c'est aussi de poser des choses extrêmement simples finalement, qui sont les conditions de travail des actrices, les conditions de lutte des actrices internes à leur milieu et hors de ce milieu-là. Et en préparant l'émission, je suis retombée sur un entretien qui avait été donné par Musidora. Donc Musidora, qui est cette actrice du cinéma des premiers temps, enfin pas tout à fait premiers temps, des années 20, qui jouait dans Les Vampires de Feuillade et qu'on a revu dans les films d'Assayas, dans ce maillot noir très moulant. Irma Vep dans Les Vampires, qui est un peu cette muse actrice, mais qui a aussi été réalisatrice, et qui dit déjà dans un entretien en 1923, je cite... La femme a déjà obtenu beaucoup de conquêtes. La comédienne a le devoir de ne pas rester indifférente au mouvement d'idées qui s'est développé depuis 30 ans. Avec un merveilleux essor, à somme égale de travail, situation égale, n'est-il pas vrai? Et le journaliste, il raconte qu'il est complètement soufflé par cette femme qui lui explique que ses convictions féministes sont indissociables de son travail. Enfin, on est en 1923. Donc l'idée que les actrices, également autrices, sont vraiment... ont toujours eu un rapport de force avec les cinéastes, puisque le titre de l'article, c'est bien « Les comédiennes et le féminisme » déjà à l'époque.
Isée Sorel, peut-être sur cette question de la fiction et du film qui serait forcément aussi son propre documentaire ?
Alors, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça, ce n'est pas aussi la mainmise que des femmes cinéastes de faire ça. C'est-à-dire que si on prend de façon plus large, Godard, dans Le Mépris, il fait aussi une critique du milieu du cinéma en mettant en scène une sorte de passation aussi avec Fritz Lang, le réalisateur à l'intérieur, qui disparaît dans son Alfa Romeo avec la star. Presque, il y a aussi tout film et le documentaire de son tournage, mais aussi tout peut-être bon film et une sorte de critique interne à ce milieu du cinéma lui-même. Après, c'est aussi un peu réducteur de ce qu'on peut imaginer du cinéma. Mais en tout cas, que dès sa naissance, cet art, finalement quand même très jeune, n'a cessé aussi de s'autocritiquer et doit continuer à le faire. Ce qui, peut-être, avait disparu au moment de cette hégémonie de l'objectivation de la femme, de la muse et notamment des jeunes femmes dans les années, disons, 80-90 avec ces cinéastes, Jacquot, Doyon et le système, justement, qui... a permis cette domination de leur part. Après, sur cette question des actrices, moi je trouve que aussi, là, ce qui est très intéressant quand même, c'est qu'elles prennent la parole non en tant que sujet politique, non plus pour faire la promotion, la communication des films, mais par exemple, il y a eu cette association LADA, l'association des acteurs et actrices qui s'est mise en place, avec, pour en connaître certaines, juste se rassembler et partager leurs expériences et se dire qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, et de voir aussi le systématisme, là encore, des phénomènes de pouvoir à l'intérieur et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et ça, je trouve que aussi, c'est quand même des conséquences du mouvement MeToo qu'on peut mettre en lumière ces actrices qui prennent le haut du pavé pour être véritablement actives. Et c'est ça qu'on attend peut-être du féminisme, c'est ne plus être juste l'objet du regard et d'une réification ou d'un fantasme, mais véritablement sujet.
Alors là, on est dans le centre de ce qui va être notre discussion sur est-ce que comment une actrice devient autrice ou est déjà autrice par son rôle d'actrice. J'aimerais quand même, pour encore continuer à entrer dans la discussion, Camille Nevers, dans un entretien récent pour Criticat, vous disiez que vous étiez en porte-à-faux à la fois vis-à-vis des cinéphiles et des féministes. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que les cinéphiles ne sont pas très féministes en général, et les féministes pas super cinéphiles, à quelques exceptions près. Enfin, disons que je peux me retrouver... Moi, je viens de la cinéphilie, hein, je m'en cache pas. Le féminisme est quelque chose qui me semblait acquis et qui, peu à peu, s'est avéré une découverte pour moi. Et donc, je continue. Je sais que, par exemple, on peut dialoguer avec Occitane et on peut débattre, et c'est ça, on n'est pas toujours d'accord. Elle est presque à vouloir jeter l'auteur et l'œuvre. Et presque le cinéma. Moi, je veux garder le cinéma. C'est mon objet. C'est l'objet de ma vie, quoi. Ça, c'est mon objet d'amour. Et je veux pas jeter Hollywood. Je veux pas jeter.
Moi non plus. Hein, je rassure tous ceux qui nous écoutent.
Le féminisme iconoclaste.
Elle a une immense poubelle à côté d'elle et elle est en train là de mettre des DVD qui de toute façon ne sont plus regardables.
Dans son article, il y avait quelque chose de l'ordre. Si on arrêtait avec l'auteur.
C'est un article dans la revue Débordement, oui, à laquelle participe Occitane Curie, que peu de gens ont lu, mais
qu'il faut lire, et donc où elle finit sur le côté si on lâchait un peu l'auteur. Et donc moi, effectivement, je suis encore dans l'idée qu'un nom, qui signe un film n'est pas d'ailleurs forcément quelqu'un, une sorte de comme un coup de peinture, enfin quelque chose. Et ça peut être aussi celui d'une actrice. Et c'est peut-être pour ça que j'essaie d'ouvrir. Et d'ailleurs, quand la phrase reprise effectivement partout de tout film est un documentaire sur son tournage, moi je la trouve presque trop restrictive. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout film est un documentaire, y compris sur l'âme de sa comédienne, sur la vie du cinéaste. Enfin, il y a quelque chose où c'est une œuvre collective et où finalement, il n'y a pas que le tournage, il n'y a pas que le travail. Il y a aussi quelque chose de la vie même, de l'existence même et de la biographie parfois. C'est un peu ce que j'ai voulu faire dans cette conférence, de montrer qu'à travers l'œuvre, bon, c'est acquis pour un auteur, mais l'œuvre d'une actrice, par exemple, on peut presque raconter, se raconter du moins ce qui lui est arrivé vraiment dans la vie, comme une œuvre qu'elle aurait créée à partir d'elle-même. Enfin, voilà, donc ça dépasse bien sûr l'idée du tournage. Alors quand je me situe en porte-à-faux, c'est parce qu'en effet, et c'est finalement au milieu de tout ce qui nous arrive, une des pistes, enfin il y a des questions, on se pose des questions, on essaie de réfléchir à ce qui se passe et de voir comment on peut répondre à ces actrices. Moi je ne suis pas du tout actrice par exemple, je ne me suis jamais sentie. C'est comment on fait dans des choses de fiction pour apporter une réponse concrète. Et il me semble que le cinéma a des choses à dire, que les actrices prennent la parole, sauf que ça se passe autant hors le cinéma que dans le cinéma. Et j'ai l'impression que la critique et donc la cinéphilie est un petit peu dépassée actuellement. C'est un petit peu ça qui me semble être en crise, c'est que la critique a du mal à se remettre en cause, enfin ne sait pas, peut-être qu'elle ne sait pas, elle réfléchit, mais que vraiment ça passe par d'autres biais, d'autres médias et d'autres voix. Donc c'est les actrices qui parlent, qui critiquent, qui émettent des doutes, qui ont une parole politique et esthétique, j'estime, et ça ne passe plus par la presse spécialisée. C'est ça l'histoire des cahiers, de la nouvelle vague, de la politique des auteurs. C'était la grande époque des revues de cinéma avec des engueulades idéologiques, positifs, les cahiers, etc. Et là, aujourd'hui, ça ne passe plus par là. Et c'est pour ça, quand je vois Judith Godrèche au César tenant son discours, je pense à Instagram à côté, et c'est pas du tout le même monde qu'on voit. C'est vraiment deux trucs différents, et c'est pour ça que je suis en porte-à-faux avec ma cinéphilie et ce qui se passe aujourd'hui en termes de politique.
En même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop binaire, et qu'on voit bien qu'il y a toute une partie de la critique, et le dernier numéro des Cahiers en témoigne, qui cherche à se remettre en question. Et après, c'est dans un mouvement pour moi plus large de remise en question des médias et de leur importance plus généralement, et qu'avec des réseaux sociaux qui prennent un contre-pouvoir aussi qu'il faut prendre en considération. Après, sur cette question des actrices autrices et de l'auteurisme, je trouve de façon générale, peut-être qu'en effet, il y a une sorte de nouvelle mort de l'auteur qui revient sur le devant de la scène. Mais c'est aussi, je trouve, de toujours s'interroger, véritablement décortiquer qu'est-ce que c'est un auteur ou une autrice, et que ce n'est pas tous les réalisateurs et réalisatrices qui, pour moi, sont des auteurs et des autrices, de la même manière que toutes les actrices ou les acteurs ne peuvent pas être considérés comme... justement, selon ce statut-là. Et donc, dans ces cas-là, c'est plutôt s'interroger qui donne déjà ce statut, qu'est-ce qui permet d'être accrédité de cette façon-là, d'être valorisé, reconnu, légitimé ainsi. Moi, ça serait peut-être selon quels critères et comment. Et qu'après, si on s'intéresse vraiment à l'auteur aussi en tant que signature, je trouve que c'est toujours selon l'importance et de la filmographie et du talent assigné à quelqu'un. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un comme aujourd'hui Isabelle Huppert, bien souvent, on va dire, je vais voir le dernier film d'Isabelle Huppert et non pas celui du réalisateur et la réalisatrice. Alors que des personnes qui sont plus identifiées ainsi, on va dire, je vais voir le dernier Ozon, Happy Chapang Vera C'est Cool, etc., etc. Et sans cela, peut-être que je vais faire une petite taquinerie. Quand Judith Gautrèche revendique le statut d'autrice, moi, personnellement, je ne sais pas. Je pense qu'elle est réalisatrice, qu'elle est scénariste, mais est-elle autrice ? Actrice, bien sûr, selon, en tout cas, moi, mes jugements de goût subjectif personnel, même si je reconnais, par exemple, tout à fait, et que je trouve que c'est extrêmement courageux et que je suis évidemment d'un soutien indéfectible par rapport à ses prises de position publiques, là encore, quand elle va aussi à l'Assemblée, au Sénat, au César, qu'elle prend vraiment cette place-là qui est essentielle, mais que pour avoir vu sa série, pour moi, je ne vois pas le geste d'une autrice selon mes critères, mais c'est un jugement extrêmement personnel.
En fait, le problème, c'est toujours celui du jugement de goût versus l'historiographie. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a quand même quelque chose à séparer de ce côté-là. C'est-à-dire que soit on considère que le rôle de la critique et de la façon dont la critique écrit l'histoire du cinéma, c'est de construire une histoire du cinéma à partir d'une question de goût, ou alors est-ce que la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut traverser l'histoire du cinéma justement par d'autres voies, qui est celle potentiellement des actrices, peut-être en dépassant la question de l'auteur qui est toujours déjà marqué par un drôle de mélange entre le goût, les règles de l'art telles qu'elles sont édifiées par le goût. Et de ce point de vue-là, moi, ce que j'aime bien essayer de trouver des clés qui peut-être me permettent de pas trop reposer sur moi-même, enfin sur mes propres biais, sur mes propres inquiétudes, sur mes propres choses comme ça. Et de ce point de vue-là, je préfère regarder effectivement qu'est-ce qui se passe dans les films, dans les filmographies et dans le travail collectif. Parce que je trouve que ça, c'est une idée, une grande idée peut-être qui ressurgit avec Me Too, c'est que le cinéma est un art collectif. Enfin, ça, tout le monde le sait. Mais dans les faits, je veux dire, dans la manière qu'on a d'aborder l'histoire du cinéma, c'est pas toujours tout à fait très clair. Et tu parlais du mépris. Et ce qui est hyper intéressant, je trouve, dans la réécriture que fait Godard du mépris lui-même, dans Tout va bien, puisque à la fin du mépris, comme chacun sait, du coup, Brigitte Bardot meurt d'un accident de voiture après avoir quitté l'alter ego de Godard interprété par Piccoli. Et dans Tout va bien, en quelque sorte, elle est ressuscitée dans un nouveau couple, à nouveau frais, post-68, par quelqu'un de très important, une actrice aussi très importante, Jane Fonda, à qui Godard confie la tâche d'entrer dans un rapport de force avec son mari Yves Montand. Et le film va même s'achever sur une réécriture du dialogue inaugural du mépris, mes seins, mes fesses, tu les aimes, etc. Là, c'est Yves Montand qui demande anxieusement à Jane Fonda « Et mes couilles, tu les aimes, mes couilles ?» Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire c'est dans ce déplacement et dans la manière que le cinéma a de se réécrire lui-même dans une relation collective au travail de l'œuvre.
Oui, je fais juste une incise avant de laisser la parole, mais c'est vrai que moi je pense que de toute façon, là, moi ce qui me passionne, ça serait plutôt que de sombrer dans une sorte de dogmatisme ou de lecture unique, de voir au contraire la profusion et l'apport et la richesse de tous ces regards et de ces nouvelles interprétations, relectures et d'écrire plusieurs histoires. En fait, je pense qu'il faut toujours voir la biodiversité aussi à ce niveau-là et penser les choses de façon dialectique. Et c'est en cela qu'une cinéphilie et les critiques peuvent avoir aussi un rôle à jouer.
Oui, parce que l'auteur dont on parle beaucoup ces derniers temps, et donc l'autrice, moi j'aime beaucoup la série de Gaudrech, mais justement je trouve ça génial qu'elle revienne par une sitcom à la télé, un objet totalement impur, qui a des défauts, mais moi j'aime beaucoup les films qui ont des défauts, ça les rend parfois plus pérenne. On a beaucoup dit, oui, que l'auteur était finalement l'auteur qui s'inspirait de l'auteur seul du roman, de l'écriture. Moi, je pense que, puisqu'on est là à parler des actrices et donc de théâtre aussi, c'est aussi l'auteur dramatique. C'est aussi l'auteur qui... Enfin, Sacha Guitry, qui est un cinéaste pour moi très important, signait l'auteur. Hein. C'est peut-être lui qui a beaucoup œuvré pour que l'auteur du cinéma, Truffaut admirait beaucoup Guitry, devienne une politique des auteurs. Et je trouve qu'on ne parle pas assez du théâtre comme art collectif, comme le cinéma, et où il y a un auteur, donc l'auteur dramatique, il y a un metteur en scène, il y a des acteurs, et l'acteur et l'actrice est au centre au théâtre. Hein. On est bien d'accord que tous les acteurs sont beaucoup plus heureux, d'après leurs témoignages, à part Catherine Deneuve et quelques-uns qui s'y sont toujours refusés, mais sont toujours beaucoup plus heureux et maître ou maîtresse d'eux et d'elles-mêmes sur une scène de théâtre que sur un tournage où, en effet, l'auteur de tout son côté maîtrise. Voilà,
et le oui, il a d'ailleurs été intéressant de voir que quand Adèle Haenel a annoncé qu'elle quittait le cinéma, on a considéré qu'elle quittait le métier de comédienne, alors qu'en fait, elle passait juste au théâtre.
Oui, ben c'est vrai que ça, c'est de toute façon, c'est ce qu'on dit souvent. Même en tant que spectateur, au théâtre, notre regard est beaucoup plus libre, n'est pas dirigé par le plan, qu'il y a vraiment un espace qui s'étend devant nous, qui est peut-être moins dirigé et dirigiste. Et c'est la même chose pour les acteurs et les actrices, où déjà, en plus, la frustration d'un tournage, c'est d'être coupé tout le temps, de recommencer, et qu'en fait, il y a tellement une sorte de machine qui se met à chaque fois autour que ce n'est pas tout à fait du tout le même métier par rapport à faire une grande traversée de 1h30, 2h, parfois maintenant, c'est 8h, 9h. Ça, bien sûr.
Mais moi, juste avant, en même temps, parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'on distingue quand même, puisqu'on est dans cette question de à quel moment, au fond, une actrice peut être autrice, est-ce qu'il ne faut pas distinguer le moment où Godrèche témoigne devant l'Assemblée nationale, où Nora, même Hamzaoui, refuse la sortie du film de Jacques Doyon, c'est-à-dire son autrice là d'une histoire collective, d'un moment collectif, et cette question peut-être un peu plus profonde que vous avez beaucoup travaillé, Camille Nevers, sur qu'est-ce que ce serait une agentivité de l'actrice qui la rendrait autrice à l'écran. En gros, de quoi ça dépend qu'une actrice soit à l'écran, non pas seulement un objet, mais aussi un sujet.
Oui, alors voilà, parce qu'il y a deux choses. Il y a l'autrice... il y a beaucoup d'actrices qui sont passées derrière la caméra. Donc, je pars de ce principe. Dès le début du cinéma, il y a eu Alice Guy. Enfin, on commence. Il y a un travail suffisamment intéressant. Et moi, je découvre. Hein, et je pense que c'est ça aussi un des enjeux. C'est qu'indépendamment de reposer la question et de mettre en crise, parce que tout ce que vous dites de Godrèche et de ses actrices, donc Alice et Nel, elles font un travail critique. C'est pour ça, quand je dis que ça sort des revues... Et que là, c'est même plus des autrices, c'est ni des actrices, ça devient des critiques d'un système, des critiques de leurs conditions de travail, enfin vraiment quelque chose de concret, quoi. Et de la même manière, d'une certaine manière, que peut-être les cahiers jaunes, dont les cahiers aujourd'hui ne veulent pas se revendiquer des années 90, mais en revanche, les cahiers jaunes, ça reste quand même le symbole sans quoi la revue n'aurait pas survécu. Et donc voilà, il y a quelque chose pour moi qui... où on se retrouve un petit peu à tête retournée comme ça entre le pouvoir qui a changé de camp, c'est-à-dire que l'auteur a pris le pouvoir depuis Belle Lurette. Il y a des gens comme ça dans des institutions et Godrèche, enfin des actrices, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est Judith Godrèche qui a repris le relais, heureusement, et j'espère qu'elle ne va pas le lâcher, parce que moi j'ai qu'une peur, c'est que ça soit un feu de paille, un pétard mouillé à force de poule mouillée, enfin qu'il y ait quelque chose qui retombe. Là pour le moment elle tient bon et j'espère qu'elle ne lâchera pas et que son moi aussi qu'elle a lancé voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la critique et du fait de relancer, de confronter les rebelles d'hier, les cinéphiles qui ont remis en cause le cinéma de papa de qualité des années 30, 40, 50, le cinéma français, voilà, que Truffaut, Godard, Romère, Rivette, etc., ont dégagé en 60 avec la Nouvelle Vague. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est du même ordre, sauf que ceux qui se prenaient pour les héritiers de ces rebelles sont finalement les assis, les rombières, ou les, je sais pas comment on dit, les ronds de cuir d'aujourd'hui, et ils comprennent pas. Et je crois qu'ils comprennent pas qu'en fait, on leur demande de laisser la place et il y a quelque chose de neuf. Et moi, je suis très curieuse et très. Je voudrais savoir ce que ça va donner en termes de fiction, donc en termes d'actrice-autrice. Et pour moi, l'autrice n'est pas forcément celle qui filme. C'est aussi de l'intérieur. C'est pour ça que je dis Godrèche est une autrice, parce que quand on voit Doyon Jacot, la fille de 15 ans est un très mauvais film, atroce. Et en même temps, c'est très intéressant de voir Godrèche comme autrice à l'intérieur. Parce que c'est ça, on peut voir des mauvais films du point de vue de l'actrice. Et ça peut être un bon film. J'ai commencé avec Scandale, un film avec Charlize Theron, Margot Robbie et Nicole Kidman. Le cinéaste, personne ne se rappelle son nom. Mais c'est trois comédiennes qui ont... Charlize Theron a initié le film, produit le film, etc., qui mettent en scène les trois journalistes de Fox News qui ont fait un Me Too de droite, puisqu'à Fox News, avec leur patron, dont j'ai oublié le nom, là, une sorte de Rupert Murdoch, enfin, ça, c'était pas lui, mais voilà, elles se mettent en scène comme actrices, elles dirigent le film, et à l'intérieur du film, elles témoignent de l'époque dans laquelle elles vivent comme actrices, critiques et autrices. Alors, il y a quelque chose de super passionnant. J'ai quelques films comme ça qui sont plutôt pour le moment américains, puisqu'ils reviennent de plus loin. She Said de Maria Schrader ou Pentagon Papers de Spielberg. En France, j'attends encore, y compris de la part des autrices, réalisatrices, quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui vienne un petit peu basculer le cinéma qui est dans un ronron d'auteur un peu chiant. Et le CNC, Boutonnat, quand Godrèche interpelle, ça fait partie aussi de ça. Il faut un petit peu remettre en cause l'institution qui ronronne, quoi.
Isée, Occitane, après.
Je trouve qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'une part, pour réagir à la question au départ de Joseph, je trouve qu'aussi il y a quand même ce que vous avez effleuré, toute cette question des grandes actrices américaines, pour moi, de Cate Blanchett, Frances McDormand ou autres, qui sont aussi les productrices souvent de leurs films.
Oui. Ouais, on a l'impression que c'est des fois souvent une condition, c'est que pour, sans être forcément à la réalisation, à la caméra, pour obtenir du pouvoir, en fait, elles sont coproductrices ou productrices de leurs films.
Déjà d'une part, et après peut-être qu'on peut retourner la chose en se disant aussi que souvent, c'est pour des rôles extraordinaires, quand même. Je crois que Cate Blanchett pour Tar, elle est productrice. Frances McDormand pour Three Billboards aussi. Et c'est aussi pour se donner les rôles et que parfois, elles peuvent être aussi très actives en ce sens-là, en disant à tel réalisateur, venez, j'ai lu tel livre, je voudrais... Donc, pour moi, déjà, il y a une part quand même de prise de pouvoir en ce sens-là et qui va toujours avec une reconnaissance en tant que grande actrice. C'est ça aussi.
Oui, Huppert est un exemple en France.
Isabelle Huppert est exactement dans cette veine-là. Donc ça, je pense que c'est dans un mouvement plus général de, contrairement à l'âge d'or d'Hollywood où les actrices étaient comme ça, les petites poupées qu'on façonnait pour certaines, en tout cas pour les studios, et bien là, on voit des actrices proactives. Donc ça serait déjà un point. Ensuite, pour revenir aussi à ce qui a ouvert la discussion, je pense que il y a déjà un cinéma foisonnant de la part des femmes. Justine Triet qui nous revient encore là des États-Unis avec ses statuettes et autres, et que évidemment les femmes, comme tout être humain, sont perméables à ce qui se passe dans la société. Et c'est pas d'ailleurs étonnant que ce film aussi traite des rapports hommes-femmes, y compris dans la création artistique. Le film de Mathilde Diop traite des enjeux postcoloniaux, celui d'Alice Diop aussi à sa façon. Donc elle porte tous ses propos avec des questionnements aussi esthétiques, puisque c'est à chaque fois des films qui ont des partis pris esthétiques très puissants. Donc je pense que la révolution est déjà en marche. Et une chose que je voulais dire, mais que j'ai oublié là précédemment, c'est qu'en effet, au théâtre, la place du collectif, et souvent les collectifs sont mis en avant avec, malgré tout, la figure d'un ou d'une metteuse en scène qui
mais aussi
affleure.
l'idée d'une troupe
et là je trouve que quand même un des cinémas les plus intéressants actuellement qui nous vient d'Argentine est justement complètement en avant cette question du collectif. Donc Pampère, c'est des mouvements quand même de fond
c'est en Argentine.
Occitane, à la fois pour réagir et pour un peu répondre à cette question de ce qui ferait que, outre le fait d'être dans la production, une actrice pourrait être considérée comme co-autrice du film. À quoi tient que des fois on peut se le dire et des fois pas du tout?
Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette affaire-là, dans ce que dit Camille Nevers et puis ce dont on parle en ce moment, c'est la question de l'animation. Qu'est-ce qui anime une actrice? C'est-à-dire que j'ai l'impression que notre culture visuelle est traversée de femmes robotiques, de femmes dès le début du cinéma, dans Métropolis, qui sont animées par une espèce d'inventeur poète, d'Ève Futur, de Pygmalion, toute cette idée-là. Et depuis que j'ai vu ce film, j'y repense très souvent, c'est Le Congrès d'Harry Folman, dans lequel vous avez une actrice justement qui est Robin Wright, qui interprète en fait son propre rôle, puisqu'elle s'appelle Robin Wright dans la fiction, qui joue une actrice ratée, une blonde hollywoodienne qui est toujours restée un peu là au fond de la salle à faire tapisserie de sa propre vie en quelque sorte. Et Robin Wright, dans ce film, elle va être scannée par les studios qui scannent désormais les actrices, qui se débarrassent des corps au profit d'une version d'elle animée par intelligence artificielle. C'est un film de 2013, donc quand même une petite dizaine d'années avant qu'on en parle véritablement. Et ce film, il sert justement à Robin Wright à prendre la revanche en quelque sorte sur son histoire, sur le système des studios, sur la logique de la taylorisation des actrices pour devenir elle-même l'autrice du film d'une certaine manière. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la suite de ce film-là, elle a connu un renouveau total dans sa carrière. Elle fait partie de ces blondes hollywoodiennes qui, dans la cinquantaine, ont connu un nouveau souffle à leur carrière et qui sont vraiment actrices de leur carrière et de leur filmographie, de la filmographie qu'elles se construisent elles-mêmes. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression que voilà, quelqu'un comme Robin Wright, c'est assez paradigmatique. Cate Blanchett aussi, même si elle a une carrière beaucoup plus... Enfin, avec moins de hauts et de bas, quoi. Et puis, quelqu'un comme Margot Robbie, même si le film Barbie m'a par certains aspects déplu, mais ce que je trouve, c'est qu'il y a une cohérence interne aussi à leur carrière, au rôle qu'elles se choisissent et à la manière qu'elles ont de jouer leur propre rôle d'utiliser ces rôles pour en faire quelque chose. Je pense aussi à une autre femme robot. Enfin,
de jouer aussi sur leur image, pas seulement sur
leur
rôle.
Image, absolument. Et je pense justement, de ce point de vue-là, à une autre femme robot qui est Evan Rachel Woods, qui joue dans la série Westworld, donc qui joue une robot dans le parc Westworld, et qui, en fait, à partir de cette position-là, a pu faire elle aussi son Me Too contre, c'était Marilyn Manson, avec qui elle avait été en couple très jeune. Donc en fait, c'est ça, moi, que je trouve, c'est cette espèce de mutation à partir du cœur du film, en fait, qui se joue de la part de ces actrices-là.
Et oui, d'ailleurs, pour réagir par rapport à ce film que je trouvais complètement visionnaire et très perturbant à voir, surtout en regard de ce qui
donc
s'est passé.
Congrès.
Le congrès de Harry Fullman, en effet, qui traite de la disparition des acteurs et des actrices au profit de leur version hologramme, où d'ailleurs ils signent des contrats en disant bah, « je ne veux pas que ma version scannée soit dans des pornos ou dans des films qui traitent de la Shoah, etc. Enfin, » c'est assez amusant, mais caustique, disons, mais quand même complètement pertinent par rapport à notre époque. Et moi, je pense, pour revenir au titre de l'émission, au-delà de la politique des autrices, je crois que c'est ça.
Non, au-delà de la politique des auteurs, vers la politique
voilà,
des autrices, attention.
Pardon,
lapsus
compliqué.
Ou alors là, c'est pour l'émission encore d'après, mais là, je vous avoue que je serais perdu, donc j'ai besoin d'un peu de temps.
Mais en tout cas, que aussi peut-être cette question d'auteur, à l'heure de l'intelligence artificielle et de leur possible disparition, je parle des scénaristes, mais là, y compris donc des acteurs et des actrices, quand on voit qu'on peut recréer à partir de presque rien l'image et les mettre en mouvement, eh bien, peut-être que ce serait ça, une politique des auteurs et des autrices pour la défense aussi, tout simplement, de ces métiers-là par rapport au péril technologique.
Alors, avant qu'on fasse l'émission sur au-delà de la politique des humains, Camille Levert, est-ce que vous pouvez... c'est le cœur de votre travail, donc je vais vous demander de le résumer, mais qu'est-ce qui fait qu'une actrice, si elle n'est pas forcément productrice ou si elle ne va pas derrière forcément la caméra, vous la considérez comme autrice? Et j'aimerais bien avoir des exemples concrets de une actrice que vous considérez comme telle, et peut-être l'inverse, à partir de quel moment elle ne le devient pas.
Non, mais après, chacun fera son corpus. Moi, dans la conférence, oui, j'ai fait un choix. Il y aura plein d'autres, mais c'était...
Donc, conférence donnée au Forum des
oui,
images.
Pardon.
Excusez-moi, je précise pour les gens qui n'auraient pas déjà tout vu et tout documenté.
Pardon.
Comment ça
Non, c'est juste qu'en fait, c'est le fruit d'une longue réflexion. MeToo est intervenu à ce moment-là, mais finalement, c'est un truc où moi, je me souviens très bien qu'au mi-temps des années 2000, j'en pouvais plus de la cinéphilie pour des raisons privées et théoriques. Et... je suis retournée un peu à la base du cinéma. Je ne sais pas si beaucoup de cinéphiles sont... Mais enfin, c'est les acteurs, en fait, avant les auteurs et les actrices en particulier. Donc, je me suis fait plaisir, au lieu de voir des films dans la transversalité, parce que c'était ça aussi la politique des auteurs, c'est de trouver une sorte de transversalité pour avoir accès à une analyse du cinéma. Et donc, l'auteur était, pourquoi pas, une façon de lire plutôt que je sais pas, les studios ou les productions. C'était les actrices. Donc, j'ai commencé à regarder tous les films avec Sandra Bullock, parce qu'en fait, il y a aussi ça. J'aime les actrices en tant qu'elles sont actrices d'une fiction qui n'est pas la même que quand les hommes les mettent en scène, c'est-à-dire souvent les comédies. Je tiens beaucoup à ça, à ce que souvent, les actrices-autrices sont des femmes plutôt drôles, et ça, c'est très mal accepté par les hommes en général, une femme de rôle, c'est compliqué. Et donc, je pense qu'on peut remonter à plus loin, dans une transversalité de l'histoire du cinéma qui serait plus celle de l'auteur, mais qui serait celle de l'actrice. Alors, moi, j'ai commencé avec Garbeau, mais parce que c'est la star, et qu'en effet, on a commencé avec les actrices stars. Et comment Garbeau, contrairement, par exemple, à une Marlène Dietrich, n'est pas du tout tenue par une œuvre marquée par des auteurs géniaux. Hein. Dietrich, elle a été... dans plein de films géniaux. Garbeau, on peut dire qu'elle a quelques films, mais bon, Clarence Brown ou Fred Niblo, c'est pas des grands auteurs devant l'éternel. Or, et ce qui me fait rire, c'est que, par exemple, moi, j'ai grandi avec Patrick Brion au cinéma de minuit sur la 3, FR3 à l'époque, et le premier cycle que ce grand cinéphile classique MacMahonien presque a montré, c'était pas un auteur comme par la suite Renoir ou Murnau, c'était Greta Garbeau. Et donc, je me dis, tiens, donc déjà, il y avait quand même cette espèce de prémisse que quelqu'un comme Garbeau, et je pense que Garbeau est quelqu'un qui s'est entièrement construite d'elle-même. Tous les films de Garbeau parlent de Garbeau. Alors après, il y avait le studio, Louis B. Meyer derrière, etc., qui l'a façonné, qui lui a donné cette espèce d'aura hollywoodienne. Mais pour moi, comme star, Garbeau est une sorte d'archétype de ce qu'on peut voir comme avoir suffisamment de pouvoir pour comme ça, aujourd'hui, devenir une sorte de Cate Blanchett ou... Isabelle Huppert, je pense, voilà, doivent à cette idée de la star qui fait son œuvre sans filmer et sans réaliser.
Morning, Ebba. What are you doing up so early?
I couldn't sleep.
That means you're either happy or unhappy, which is it?
Happy.
I'm glad. And what makes you so happy?
Oh, no reason.
How wonderful to be happy for no reason.
Let's go for a sleigh ride.
I can't now.
Oh, why not?
Ambassadors, treaties, councils.
How boring.
Today I'll dispose of them by sundown, I promise you. And we'll go away for 2-3 days in the country.
Oh,
wouldn't you like that?
Oh, I'd love it.
The French ambassador, Monsieur Chanou, is waiting in the council chamber.
There they begin. Countess, you're dismissed. Run along.
Après, pour moi, il y a un premier collectivisme qui est celui de la comédie des années 30, qu'on retrouve dans les années 2000 avec la comédie du Saturday Night Live, Tina Fey, Amy Poehler, Kristen Wiig, Melissa McCarthy, qu'on voit dans les films Judah Apatow, par exemple, ou Paul Feig. Enfin voilà, la comédie comme endroit collectif où des femmes ont pu être un peu indépendantes, autonomes dans les années 30. On voyait plein de femmes rire, fumer, partir en aventure, avoir des amants, voler, enfin, des choses qui sont le contraire de la femme soumise, etc. Et je vois là, non pas une actrice, qu'on pourrait dire autrice dans les années 30, mais une sorte de collectivisme déjà, d'un genre qui était la comédie, qui était parfois mise en scène par des grands cinéastes, pour moi, Hawks, etc., mais qui donnait une liberté au Q-Corps, qui donnait une liberté aux actrices à l'intérieur de leurs films, qui leur permettait d'exister, qu'elles s'appellent, je sais pas, John Bennett, Rosalind Russell, Jean Harlow, Jean Arthur, etc., Catherine Hepburn, voilà. Et donc, il y avait une espèce d'effervescence. Il y a eu la guerre qui faisait que les hommes n'étaient pas là. Quand ils sont revenus, ça s'est un peu compliqué, on est retombé dans des choses un peu plus mélodramatiques, le woman's movie, des trucs, voilà. Mais on peut aussi imaginer que Bette Davis est une autrice, ou Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, c'est un exemple que j'aurais pu prendre dans ma conférence, parce qu'elle est passionnante. C'est quelqu'un qui a fait tous les grands auteurs du monde, à travers le monde, de Jean Renoir à Roberto Rossellini à Hitchcock. Et il faut voir l'œuvre de Bergman en tant que l'œuvre de Bergman. C'est génial ce qu'elle a construit comme
Et c'est elle qui va chercher Rossellini, par exemple.
Oui, c'est ça, c'est fou. Non, c'est une des grandes autrices, actrices, je trouve.
Et parce que malheureusement, il faut déjà aller vers la fin de l'émission. On a beaucoup parlé, on a finalement, à part Isabelle Huppert, on a peu parlé d'exemples en France. On en a, Occitane Lacurie ?
Ben oui, en France, il y a évidemment Delphine Seyri, qui est une immense actrice, dont on peut citer les très grands films. Enfin, l'année dernière, à Marion Ball est sans doute mon préféré. Mais qui, en fait, depuis sa persona d'actrice... Et d'ailleurs, tu dis un truc dans la conférence que j'ai trouvé très, très intéressant. Tu dis que la persona pour une actrice, c'est le style. Et ben, je trouve que c'est exactement ça. Et c'est encore plus sensible chez Delphine Seyri, qui a une telle persona, avec ce phrasé si particulier, cette scansion comme ça, si particulière, et ses regards, et sa manière de se mouvoir dans le plan, etc. Et c'est à partir de tout ce style, en fait, qu'elle va ensuite construire une carrière non seulement de cinéaste, mais surtout de militante, en fait, quelque part, puisqu'elle va faire différents films. Alors, on connaît évidemment Jeanne Dielman de Chantal Ackerman, mais d'autres où c'est carrément dans le cadre d'un documentaire qu'elle va se mettre à enquêter sur d'autres trajectoires de femmes. Je pense à un film alors qui a un peu resurgi là, ces dernières années, mais qui, voilà, si les personnes qui nous écoutent arrivent à le voir, c'est, voilà, je le conseille, même s'il est peut-être un peu invisible, c'est Lettre de Calamity Jane à sa fille, qui est un film de Babette Mangold, dans lequel, qui est un documentaire, dans lequel...
La chef opératrice.
Voilà, dans lequel Delphine Seyrig, en fait, enquête sur le personnage de Calamity Jane, là où elle a vécu, et elle le fait en tant que Delphine Seyrig, l'actrice, en quelque sorte, puisqu'en fait, elle s'imprègne de ces espaces, elle s'imprègne de ces conversations pour un film à venir qui, finalement, n'existera pas, mais qui est juste le travail de l'actrice mis en scène comme une enquête féministe.
Et une, alors vraiment, j'aurais une dernière question, mais tellement prosaïque que vous avez le droit de ne pas y répondre. le dernier... Oscar a été décerné à Emma Stone pour un film qui s'appelle Pauvre créature. Est-ce qu'on est vraiment dans l'attention? C'est-à-dire que c'est Emma Stone serait peut-être une actrice autrice, mais qui refuserait d'être une créature, mais encore dans un film qui s'appelle Pauvre créature.
Oula, tout ça est extrêmement dialectique et sous tension, Joseph. Bah, c'est là où c'est un exemple. Moi, je n'aurais pas de réponse simple dans ce film, puisque je trouve qu'en effet, il y a une partition d'Emma Stone d'une liberté énorme.
D'ailleurs, elle produit, je crois. Enfin, elle est.
Bah, elle aussi, peut-être, elle en fait donc partie. Oui, ça rejoindrait ce qu'on disait auparavant. Je trouve qu'elle est quand même époustouflante. Et qu'en même temps, si on prend une grille de lecture féministe, il y a pas mal de choses dans ce film qui sont un peu dérangeantes sur ces.
Sur le côté pantin.
Sur le côté pantin, en effet, désarticulé. Tout en la presse, ce qui a été mis en avant, c'est le côté émancipation malgré tout, puisqu'à la fin, c'est quand même elle qui prend le pouvoir dans la maison de ce chirurgien qui l'avait recueilli et qui décide elle-même de devenir médecin avec finalement une sorte de basse-cour des hommes qui l'ont accompagnée ou ont voulu, ou l'ont séduite tout au long du film. Donc, je pense que c'est là où on voit aussi le caractère polymorphe des œuvres et qui, je pense, il faut garder aussi en tête que si on ne veut pas être juste dans l'idéologie, il faut pouvoir maintenir plusieurs interprétations, mais qu'en tout cas, c'est vrai que j'aimerais y voir une insoumuse.
Merci infiniment à toutes les trois. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun.